أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده من هذه الأمة أكمل الشرائع وأيسر الأديان، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، فهي آخر الأمم في الدنيا وأول الأمم يوم القيامة، لما يحتويه دينها الذي هو خاتم الديانات السماوية من خير للبشرية في مصادره وأحكامه وتشريعاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتتمسك بسنته وسلم تسليما كثيرا.
Cette cassette est produite par vos fils étudiants guinéens à l'Université islamique de Médine en Arabie Saoudite. Elle est adressée à nos pères, nos mères, nos frères et sœurs, à tous musulmans et à toutes musulmanes, pour qu'ils puissent mieux comprendre le message du prophète et mieux le pratiquer.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
ما شاء الله سير دمون qui a établi pour ses adorateurs de cette communauté la législation la plus complète, la plus simple de religion, et qui a fait de cette communauté la meilleure communauté issue pour les humains. Elle est la dernière des communautés qui se sont succédées dans ce monde, et la première parmi elles le jour du jugement dernier, pour ce que contient sa religion comme demeure, de par ses références, ses règles et ses législations. Et j'atteste qu'il n'y a d'autre divinité sauf Allah, seul, sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son esclave et messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, et sur celui qui a suivi son chemin et a pratiqué sa tradition. Ô musulmans, craignez Allah et sachez que l'islam est le grand bonheur qu'Allah a fait pour ses adorateurs, et il le dit dans le Coran chapitre 5 verset 3.
قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Ce grand islam est fondé sur 5 piliers. Si tu y réfléchis, tu trouveras que chaque pilier contient d'innombrables grandes utilités et d'abondants profits. Nous avons donc pensé à faire allusion ici à quelques-uns de tes utilités et profits à la lumière de ce qui a été prouvé et que la réalité a confirmé. Car c'est partie de la reconnaissance des bienfaits le fait d'en parler haut et fort. Et ceci, Dieu le dit dans le Coran, chapitre 93, verset
1.
Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. L'islam est fondé sur 5 piliers. Cela est témoigné par le hadith d'Ibn Omar, qui est Dieu l'agréé, qui dit que le prophète paix et salut sur lui a dit.
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا.
Which is a deal case, l'Islam is founded with 10 pillars. The témoignage qu'il y a d'autres divinités sauf Allah et que Mohammed est l'envoyé de Dieu, l'accomplissement de la prière, le fait de donner la zakat, le jeûne de Ramadan, le pèlerinage à la Mecque pour celui qui a la possibilité. Mais qu'est-ce que c'est donc l'Islam? C'est la soumission totale à Allah en reconnaissant qu'il est unique. C'est aussi le fait de s'abandonner totalement à Allah en l'obéissant et en se débarrassant de l'association. Cette définition de l'Islam est éclaircie ici par la parole du prophète lorsqu'il a donné la réponse à l'ange Gabriel qui lui a posé la question sur la religion et il a répondu en ces termes.
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة et que tu fasses le pèlerinage à la maison sacrée si tu as la possibilité. Personne.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Wa la yahuddu ala ta'ami al-miskin. Fawailun lil-mutallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
Le premier pilier de l'islam, c'est la profession de foi. Il s'agit de témoigner qu'il n'y a pas d'autre divinité sauf Allah et que Mohammed est son esclave et son messager. Quel est donc le rôle et l'importance de la profession de foi dans la religion? Cela se résume en ces points suivants. On ne rentre pas en islam que par la profession de foi, c'est-à-dire « Ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ». C'est la phrase que prononce le musulman lors de l'appel à la prière. C'est avec cette phrase que la terre et les cieux ont été suspendus. L'ensemble des créatures ont été créées à cause de cette phrase, et cela est dit dans la parole d'Allah qui dit ceci.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est à cause d'elles que la balance du jour du jugement dernier a été établie, et que le cahier de compte est ouvert, et que le paradis et l'enfer existent. Avec cette phrase, les humains ont été divisés en deux, croyants et mécréants. L'homme sera questionné à propos de cette phrase, et les comptes seront faits selon cette phrase, et l'homme sera récompensé ou sanctionné selon cette phrase. Elle est le droit de Dieu sur l'ensemble de ses adorateurs, et c'est la clé de l'islam. Le premier et le dernier, le jour du jugement dernier, seront questionnés à propos de cette phrase. Elle différencie entre le croyant et le mécréant. Elle inspire la crainte de Dieu et elle est l'héritage le plus important que le prophète Ibrahim a laissé, comme il le dit dans le chapitre 43, versets 26 à 28.
وجعلها كلمة باقية في عقده لعلهم يرجعون.
Et lorsque Abraham a dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui le guidera. Et il a ainsi une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance, peut-être reviendront-ils. Les messagers ont été envoyés à cause de cette phrase, et le livre sacré a été révélé à cause d'elle, comme il est dit dans le chapitre 21, verset 25.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé sans les divinités en dehors de moi, adorez-moi donc. La profession de foi comprend deux parties. Le témoignage qu'il y a des divinités sauf Allah seul et le témoignage que Mohammed est son esclave et envoyé. Quel est le sens de la première partie de la profession de foi, à savoir « La ilaha illallah » c'est-à-dire qu'il y a d'autres divinités sauf Allah. C'est le refus de donner le mérite d'adoration à tout être sauf Dieu et la confirmation de ce mérite d'adoration en Dieu seul, sans associer, comme rien ne lui est associé dans sa réalité. Car Dieu dit dans le Coran, chapitre 16, verset 2,
« Yunazzilu al-malaikatu bi-ruhi min amrihi ala man yasha. » على من يشاء من عباده أن انذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون.
Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, créez-moi donc. Quelles sont les conditions de la ilaha illallah? Il y a des conditions qui, si le prononciateur de la ilaha illallah ne les réunit pas, il ne tire pas profit de ce qu'il dit. Ce sont la connaissance de son sens de négation et de confirmation, en être certain du fond du cœur, s'abandonner totalement à cette phrase, aussi bien du confort intérieur que de ses actes visibles. L'accepter sans rejeter quelque chose de ses composantes et de son contenu. La prononcer avec sincérité. Croire en ça du fond du cœur et non sur la langue. Avoir un amour pour elle et pour ceux qui la prononcent et aimer par elle et détester par elle. Quant à la deuxième partie de la profession de foi, c'est Mohammed Rasulullah. Mohammed et la voix de Dieu. Quel est le sens de Muhammad Rasulullah et quelles sont ses conditions pour que celui qui la prononce puisse en tirer profit? Le Muhammad Rasulullah, c'est la croyance sûre du fond du cœur et en conformité avec ce que prononce la langue, que Muhammad est l'esclave et la voix de Dieu à toutes les créatures êtres et génies. Alors, il devient obligatoire de croire à toutes les informations qu'il a données concernant le passé et le futur, de croire à ce qu'il a rendu lucide parmi les lucides et ce qu'il a rendu illicite parmi les illicites. Il devient aussi obligatoire d'appliquer avec soumission tout ce qu'il a ordonné et de se débarrasser de ce qu'il a interdit. Il devient obligatoire de suivre sa législation et sa tradition, étant seul ou en public, tout en respectant et en se soumettant à ce qu'il a décrété et en sachant que l'obéissance à Mohammed est l'obéissance à Dieu et que la désobéissance à Mohammed c'est la désobéissance à Dieu car il est l'envoyé de Dieu qui a apporté son message et Dieu ne lui a pas retiré son âme selon qu'il a fini d'accomplir sa mission. Et il a rendu le message et laissé à sa communauté une preuve limpide et visible aussi bien dans l'obscurité que dans la lumière, et sauf le perdant qui s'en détourne. Écoutons ce que Dieu a dit dans le Coran, chapitre 47, verset 33.
Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum.
Oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au messager, et ne rendez pas vain vos œuvres. Quant aux conditions de Muhammad Rasulullah, ce sont les mêmes que celles de la ilaha illallah citées précédemment. Ce sont la connaissance de son sens de négation et de confirmation, en être certain du fond du cœur, s'abandonner totalement à cette phrase aussi bien dans son fort intérieur que de par ses actes visibles, l'accepter sans rejeter quelque chose de ses composantes et de son contenu, la prononcer avec sincérité, croire en ça du fond du cœur et non sur la langue, avoir un amour pour cette phrase et pour ceux qui la prononcent, et aimer par elle et détester par elle. Voyons maintenant la distinction de la profession de foi et ses effets. La profession de foi se distingue par plusieurs points. D'abord, par le fait que celui qui la prononce, tout en croyant en Dieu, Dieu l'accorde le paradis, et celui qui le dit, par hypocrisie, mérite le même traitement que le mécréant en ce qui concerne ses biens et son sang dans la vie ici-bas, et quand au jour du jugement dernier, son corps devient à Dieu. Parmi les distinctions de la profession de foi, c'est dit que la profession de foi est légère sur la langue et lourde sur la balance le jour du jugement dernier. Un avis rapporté par Ibn Hibban et Hakim et confirmé par Abi Sa'id al-Khudri que le prophète d'Allah qui est salué sur lui a dit que le prophète Moussa a dit à Dieu ce qui suit.
فقد روى ابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لك بحن لا إله إلا الله.
Ceci signifie, ô mon Seigneur, apprends-moi quelque chose avec laquelle je me rappelle de toi et je t'invoque. Le Seigneur a dit, ô Moussa, dis la ilaha illallah. Moussa a dit, tout ce que tu as dit cela. Le Seigneur a dit, ô Moussa, si les sept cieux et les sept terres et ce qui est entre eux sauf moi seraient dans le plateau d'une balance, et dans l'autre plateau se trouverait le La ilaha illallah, et La ilaha illallah allait peser tout ce qui contient l'autre plateau de la balance. Parmi les distinctions toujours, le La ilaha illallah est le meilleur moyen de se rappeler de Dieu. Il est dit dans un hadith d'Ibn Omar que le prophète a dit.
وفي حديث ابن عمر مرفوعا خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
La meilleure des invocations est celle qui se fait le jour de Arafa. Et la meilleure invocation que j'ai dit ainsi que les autres prophètes avant moi, c'est qu'il n'y a pas d'autre divinité sauf Allah, seul, sans associé, il détient la royauté, et à lui la louange, il est capable de toutes choses. Parmi les distinctions toujours de la ilaha illallah, la ilaha illallah est le signe qui apparaîtra sur les croyants lorsqu'ils seront ressuscités de leur tombe. On ouvrira pour ceux qui la prononcent les huit portes du paradis, et ils rentreront par là où ils voudront. Quant aux effets de la ilaha illallah sur l'individu, en voici quelques-uns. Une tranquillité d'esprit pour celui qui la prononce et agit en fonction d'elle, car il adorera un seul Seigneur dont il connaît la volonté, et il fera ce que son Seigneur aime et s'écartera de ce qu'il déteste. Comparativement à celui qui adore plusieurs divinités, et chaque divinité a sa volonté différente de celle de l'autre et son système différent de celui de l'autre. Dieu nous fait entendre ici ce que Yusuf a dit dans le chapitre 12, verset 39.
أأرباب متفرقون خير عن الله الواحد القهار.
Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur, des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dompteur suprême? Ceux qui prononcent la ilaha illallah sont honorés dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. ce qui est dit dans la parole d'Allah dans le chapitre 22, verset 31.
حلفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
Soyez exclusivement acquis à la religion d'Allah, ne lui associez rien. Car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel, et que les oiseaux le frappaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Ceux qui prennent de la ilaha illallah, qui sont préservés du sort réservé aux mécréants en ce qui concerne leur sang, leur bien. Cela se voit dans le hadith, dans la parole du prophète, au moment de la confrontation défensive avec les mécréants.
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها.
J'ai été ordonné de tuer les gens jusqu'à ce qu'ils disent لا إله إلا الله et s'ils le disent, leur sang et leur bien sont préservés sauf en cas de violation de la législation.
بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
Le deuxième pilier de l'islam, c'est la prière. On définit la prière comme l'ensemble des paroles et actes spécifiques qu'on commence avec le takbir, c'est-à-dire Allah Akbar, et qu'on termine avec le taslim, c'est-à-dire Assalamu alaikum. Quelle est l'histoire de la prière et quelles sont ses obligations? La prière a été faite comme un devoir religieux lors de l'ascension céleste du prophète avant son hégire et d'environ 5 ans comme connu chez les historiens qui se basent sur le hadith Anas qui dit ceci.
Le hadith Anas radiallahu anhu qad فردت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة عطري به 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وعن لك بهذه 55.
Ce qui veut dire, on a rendu ma prière obligatoire 50 fois au prophète lors de son ascension céleste, puis on a diminué jusqu'à 5. Puis on lui a dit, ô Mohammed, on ne change pas ce que nous disons. Tu as dans tes 5 ce qui vaut 5 ans. La prière est donc une obligation individuelle sur tout responsable majeur et qui raisonne. Quant aux enfants, on a leur apprend à 7 ans et on les frappe à 10 ans s'ils ne le font pas. Selon la parole du prophète, paix et salut sur lui,
لقوله صلى الله عليه وسلم مروا تبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بين
أرعيك أرضني سبحانه كده دوري الله يبوى أكيد أكسفي ده كمبلير لا بريير إذا كتير لا زكاة ولا لا رليجان إدراتيه.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
Accomplissez la prière, donnez la zakat et prosternez-vous avec ceux qui se prosternent. Chapitre 4, verset 33.
فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
Accomplissez la prière, car la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. La justification de la légalité de la prière par la tradition du prophète se voit dans le hadith d'Ibn Omar qui dit que le prophète a dit.
Hadith Ibn Omar, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu qal, bunya l'islam ala khamsin, shahadatu an la ilaha illallah. وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا.
الإسلام أسفنده في 5 piliers. Le témoignage qui nous a de divinité sauf Allah et que Mohammed est son messager, ça est allé sur lui. L'accomplissement de la prière, le fait de donner la zakat, le jeûne de Ramadan, le pèlerinage à la maison sacrée de Dieu pour ceux qui ont les moyens. La justification de la vitalité de la prière se voit à travers le consensus des savants musulmans qui sont tous d'accord sur l'obligation de 5 prières quotidiennes. Voyons maintenant la distinction de la prière. La prière se distingue par plusieurs points et en voici quelques-uns. C'est un engagement entre l'esclave et son Seigneur car on y trouve une promesse de succès pour l'être humain et il y a une mise en évidence de l'adoration pour Dieu seul et le fait que toute chose lui revient. La prière est la voie qui mène au succès car Dieu le dit dans le Coran chapitre 23 verset 1 à 2.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. La prière dissimule le péché et les mauvaises actions. Et cela est dit dans la parole du prophète et salut sur lui.
قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب عهدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا.
Voyez-vous s'il y avait un marigot devant la porte de quelqu'un d'entre vous, et s'il l'avait 5 fois par jour, est-ce qu'il restera sur son corps la saleté? Il dit non, il n'en restera rien. Il a dit, les 5 prières sont comme cela. Avec elles, Dieu efface les péchés. Il a dit aussi dans un hadith,
« وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تفش الكبائر.
للسنف رياض دين فاندردي أعينة فاندردي إلى إن بسم الله شان دي جران كيشي. La prière approche l'individu de son créateur par le fait qu'il accomplit ce qui lui a été rendu obligatoire et ce pour lequel il a été créé, comme il a dit dans le Coran.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. La prière apprend à aimer la priorité, la propriété et l'organisation des affaires de la vie courante par le fait qu'elles sont faites dans des moments précis et organisés. Elle est une école qui enseigne le bon comportement, le travail, la croyance et la sincérité. Elle empêche de faire de mauvaises actions et de la turpitude, comme il est dit dans la parole de Dieu.
Allah Ta'ala, wa aqimi s-salata inna s-salata tanha anil fahsha'i wal munkar.
Et accomplissez la prière, car la prière empêche la fornication et de mauvaises actions. La prière enracine et renforce la vraie foi dans l'âme de l'individu et la rend vivifiante dans la société. Elle permet une interpénétration des éléments de la société qui deviennent comme un seul corps. Si un membre est malade, les autres sentent cette maladie. Elle permet une interconnaissance des croyances, des croyants et leur coopération dans les bonnes actions et dans la piété à travers l'aide aux nécessités. Parlant de prière elle-même, elle a sa forme complète. Lorsque un certain nombre de piliers sont réunis, ce sont des actes et paroles qui, s'ils ne sont pas réunis, la prière n'est pas une prière. Ce sont, premièrement, la position debout pour celui qui peut, dans la prière obligatoire. Deuxièmement, l'intention. C'est la décision du cœur pour l'accord, pour l'accomplissement de la prière. Troisièmement, le takbirat al-ihram, en disant Allah Akbar. Quatrièmement, la lecture de la fatwa, c'est-à-dire le chapitre 1 du Coran. Cinquièmement, l'inclination. Sixièmement, le retour à la position debout. Septièmement, la prosternation. Huitièmement, le retour de la prosternation. Neuvièmement, la stabilité dans l'inclination, la prosternation, la position assise. Dixièmement, le salut sur le prophète. Onzièmement, la position assise pour le salut. Deuxièmement, la succession de ces piliers en ordre. La prière a des conditions. Il y a deux catégories de conditions. D'abord, les conditions qui rendent la prière obligatoire, ce sont premièrement l'islam. Alors la prière n'est pas obligatoire pour le mécréant. Deuxièmement, l'équilibre mental. La prière n'est donc pas obligatoire pour le fou. Troisièmement, la majorité. La prière n'est donc pas obligatoire pour l'enfant. Quatrièmement, le moment de la prière. Alors la prière n'est pas faite avant le moment. La deuxième catégorie de conditions, c'est les conditions pour la validité de la prière. Premièrement, la pureté de la grande ou de la petite impureté. Deuxièmement, la couverture des parties intimes. Troisièmement, le fait de faire face à la Qibla. Alors la prière n'est pas valable en une direction d'autre que la Qibla. Il y a des paroles et des actes que le prophète a fait dans la prière et qui sont recommandés. Ce sont lecture d'un chapitre ou d'une partie du Coran après la fatwa. Le fait de dire Subhanallah liman ahamida rabbana wa lakal hamd. Et ceci pour l'imam et celui qui prie derrière lui ou un individu qui prie seul. Dire Subhanallah azim trois fois en position inclinée et dire Subhanallah Allah trois fois en prosternation. Dire Allah Akbar lors du passage de la position debout à la prosternation et de la prosternation à la position assise. Le premier et le deuxième tashahhud et la position assise pour ça. La forme du tashahhud. Lire à haute voix pour les prières qui en conviennent. Lire à voix basse pour les prières qui en conviennent. Le salut sur le prophète dans le dernier tashahhud. Il y a des choses qui gâtent la prière. Ce sont le fait de laisser un des piliers de la prière. Le fait de manger et de boire dans la prière. Parler dans la prière des choses qui ne font pas partie, car le prophète a dit
Le qawlihi sallallahu alayhi wa sallam Inna hadihi salat la yuslihu fiha shay'un min kalamin nas.
Ce qui veut dire cette prière n'admet pas à son sein des paroles venant des personnes. Le fait de rire à haute voix, toute autre action et ce qui est interdit dans l'adoration, et le fait d'occuper le cœur et les autres membres du corps par autre chose que la prière. Ajouter quelque chose à la prière par extrait, comme faire en 8 rakat la prière de l'après-midi. Étant dans une prière, si tu rappelles que tu n'as pas fait une avant celle-ci, elle est automatiquement annulée. Tu embouches ce que tu as manqué, ensuite tu reviens à ce que tu devais faire.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
La zakat, c'est un droit obligatoire prélevé sur un bien spécifique et attribué à une catégorie de personnes spécifiques dans une période spécifique, tout ceci déterminé par la législation islamique. En termes clairs, parlant de biens spécifiques, il s'agit de l'or et de l'argent ou tout ce qui les remplace valablement comme papier de banque. Et aussi, il s'agit aussi du bétail, des récoltes et des marchandises. Parlant des catégories de personnes spécifiques, c'est ceux-là qui sont cités dans le verset 60 du chapitre 9 du Coran qui dit ceci.
والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
Les sadakat ou zakat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse, c'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Parlant de période spécifique, il s'agit du cycle d'une année. Il y a des preuves dans le Coran, dans la tradition du prophète et le consensus des musulmans qui justifient le caractère obligatoire de la zakat. Dans le Coran, il est dit ceci dans le chapitre 2, verset 43.
وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
Et accomplissez la prière, et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Dans la tradition du prophète, il est rapporté dans le hadith d'Ibn Abbas que le prophète, lorsqu'il a envoyé Mouaz à Yémen, il lui a dit.
Hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, anna al-Nabiyy sallallahu alayhi wa sallam, لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وعني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم.
أتلا أفتكر ديس كني أفرج ديمنيتي سف الله ست ديس دان سلا أفران لير كالا أرامي أبيداتوا أشير إيه سن كريير كوفيدين ست ديس دان سلا apprennent-leurs qu'Allah a rendu obligatoire un prélèvement sur leurs biens qu'on prend chez les riches parmi eux et on donne aux pauvres parmi eux. Il est dit dans un autre hadith rapporté par Abu Hurayra qu'un bédouin arabe est arrivé chez le prophète et lui a dit
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
Vas-tu de prendre un travail si je le fais, je rentre au paradis? Le prophète a dit ceci. Tu adores Dieu et tu ne lui associes rien. Tu accomplis la prière prescrite. Tu acquittes de la zakat obligatoire. Tu jeûnes le mois de Ramadan. Au nom de celui qui lui tient ma vie dans sa main, je m'habituerai à cela. Ensuite, lorsque le bédouin repartait, il dit à son entourage ceci. Celui qui a souhaité voir un homme du paradis, qu'il regarde cet homme-là. Le consensus des savants musulmans est aussi une preuve qui justifie l'obligation de la zakat. Ils sont tous d'accord pour ça. Les compagnons du prophète sont aussi d'accord qu'il est normal de combattre celui qui empêche la zakat. La preuve pour cela, le combat que le calife Abou Bakr a mené contre ceux qui empêchaient la zakat. Les autres compagnons l'ont soutenu pour ça. Quels sont les objectifs de la zakat dans la vie de l'individu et celle de la société? La zakat a des objectifs humains et sociaux très généreux, pleins de moralité, et gagne en valeur. C'est pourquoi l'Islam a envisagé son obligation et l'a insérée dans sa législation. Si elle est appliquée correctement, elle porte des effets positifs dans la vie de l'individu et celle de la société. Parmi ces objectifs, on peut citer ce qui suit. La zakat vise à établir le rapport d'adoration entre l'homme et son créateur, et cela à travers les biens. On considère le fait de donner la zakat comme étant la réponse à l'ordre de Dieu de la part de celui qui la donne. C'est aussi un respect de son engagement vis-à-vis de Dieu. Celui qui donne la zakat espère une récompense de la part de Dieu le jour du jugement dernier et une protection de ses biens par la miséricorde de Dieu dans la vie ici-bas. La zakat vise à purifier l'individu de l'avarice, à le purifier de l'égoïsme et de la gourmandise. Car Dieu dit dans le Coran, chapitre 3, verset 92,
« Lan talalu al-birra hatta tunfiqu man ma tuhibbun »
Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites la zakat de ce que vous aimez. La zakat vise à aider les faibles et à prendre en charge les nécessités. Alors le musulman, lorsqu'il donne son argent, cela suscite en lui un sentiment de responsabilité dans la société. La zakat vise à augmenter le sentiment de civisme entre les individus et la société. Celui qui donne la zakat de ses biens, il se sent membre à part entière de sa société. Ainsi, il prend part aux devoirs sociaux et civiques. Il transformera la société en une famille où règne l'amour et la collaboration. Cela se justifie par la parole du prophète qui dit ceci.
لقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواجهم وتراحمهم وتعاتفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسحر والغماء.
Les musulmans, dans leur coopération, dans leur amour les uns pour les autres, sont comme un corps. Si une partie de ce corps se plaint d'un mal quelconque, les autres parties le sentent et en souffrent également. La zakat vise à faire pardonner le péché de celui qui s'en acquitte et elle protège contre les événements malheureux. Et elle répand sur lui la miséricorde d'Allah. La zakat vise à assurer la tranquillité d'esprit. Elle assure la tranquillité d'esprit sur les nécessités pour ainsi préserver la société de la désintégration. C'est donc un moyen de lutte contre la faim, la pauvreté et une garantie pour la réinsertion sociale. Quel comportement doit adopter celui qui donne la zakat? Il doit comprendre le sens de la zakat à trois niveaux. Premièrement, un test du degré de l'amour de Dieu en lui par le Dieu de ce qui lui est cher. Deuxièmement, le nettoyage de l'avarice qui peut le ruiner. Troisièmement, une sorte de remerciement adressé à Dieu qui lui a donné le bien. Il doit comprendre le sens de la zakat à trois niveaux. Premièrement, un test du degré d'amour de Dieu en lui par le Dieu de ce qui lui est cher. Deuxièmement, le nettoyage de l'avarice qui peut le ruiner. Troisièmement, une sorte de remerciement adressé à Dieu qui lui a donné le bien. Parlant toujours du comportement de celui qui donne la zakat, il doit être distinct lorsqu'il donne la zakat, loin de toute ostentation devant les gens. S'il a peur des critiques des gens, il peut donner en public à des nécessités qui ne se gênent pas pour ça. Quant aux autres, il leur donne discrètement. Le donateur de la zakat ne doit pas annuler les récompenses de ses actes en publiant ce qu'il a fait ou en faisant du tort avec ça. Car Dieu dit
« Ya ayyuha alladhina amanu la tabtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiq malahu ri'aa an-nas wa la yu'min billahi wal yawmil akhir. »
Oh le croyant, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire à Allah et au jour du jugement dernier. Alors, que le donateur considère ses vertus dans tous ses aspects. Si quelqu'un se montre bienfaisant envers un pauvre en lui apportant un gain, il verra le pauvre bienfaisant envers lui pour prendre chez lui la part d'Allah qui est pour le donateur une purification. Et s'il évoque une nécessité que le fait qu'il donne la zakat est un guise de revêtement pour ses biens, il n'y aura pas de problème entre lui et les nécessités. Il ne doit pas mésutiliser le pauvre à cause de sa pauvreté, car le bonheur ne s'achète pas, il est dans les mains de Dieu et il le donne à qui il veut parmi ses esclaves. Qu'il informe que c'est un cadeau, car si quelqu'un est honoré avec une action, il s'en étonne. Certains orthodoxes indiquent que le bienfait n'est effectué que s'il y a trois choses. Que le donateur n'y accorde pas trop d'importance, qu'il le fasse rapidement et qu'il le fasse en discrétion. Le donateur de la zakat doit donner de ses biens ce qui est bon, car le prophète a dit.
وأما الحل لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا
Dieu est bon, il n'aime que ce qui est bon. Ça doit être ce qui est meilleur, car Dieu dit dans le verset de 76, chapitre 2,
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
Ne donnez pas ce que vous-même n'accepterez qu'en fermant les yeux et sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'il est digne de louange. Il doit donner de ce qu'il aime le plus, car Dieu dit,
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
Vous n'atteindrez jamais la pureté tant que vous ne dépensez pas ce que vous aimez. Cet exemple de bienfaisance a été donné par les chanteurs, compagnons du prophète. Voilà pourquoi Dieu parle d'eux dans le chapitre 59, verset 9.
والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu et qui le préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Il y a dans un hadith l'exemple de la Bible qui a fait manger à un mendiant ce que lui-même il a mangé. Il y a dans la législation islamique plusieurs avis et versets qui encouragent l'acquittement de la zakat et d'autres prévoient un châtiment pour celui qui doit le faire et qui ne l'a pas fait. Voici quelques avis qui encouragent l'acquittement de la zakat. Le hadith d'Ibn Omar dans lequel le prophète a dit
Hadith d'Ibn Omar radiallahu anhu Bunya l'Islam ala khams Shahadat an la ilaha illallah وأن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
لحديث ابن عمر لكلاب أصلي في السنكرية لتمواج في نياد الدينية شخص الله لكم محمد أصلي مسلاف المساجي لكمبليتمان de la prière le pèlerinage de la maison sacrée l'acquittement de la zakat le jeûne du mois de Ramadan. Il est dit dans le hadith d'Abu Hurayra qu'un bédouin arabe a demandé au prophète de lui montrer le travail qu'il doit faire pour avoir le paradis. Le prophète a dit ceci.
Hadith Abi Hurayra, radiallahu anhu, anna arabiyan ata al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqal, ya Rasulallah, dulluni ala amalin idha amiltuhu dakhaltu al-jannah. Qal, ta'budullah la tushrik bihi shay'a. وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
في أدرج اسم لي أصفرني فأكمل في أدرج statut de la zakat obligatoire qui gêne le mois de Ramadan. Il a dit au nom de celui qui détient mon âme dans sa main, je n'ajoute rien sur ça et je ne diminue rien. Lorsqu'il repartait, le prophète a dit à son entourage, celui qui veut voir un homme du paradis, qu'il regarde celui-là. Quant au hadith qui prévoit le châtiment pour celui qui refuse de s'acquitter de la zakat, un hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud qui dit que le prophète a dit
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عهد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع شجاعا أقرع حتى يسوق به عنقه. ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله ولا يحسبن الذين يبخلون مما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة.
Celui qui ne donne pas la zakat, cette zakat sera transformée le jour du jugement dernier en un serpent qui s'enroulera autour de son cou. Ensuite, le prophète a récité le verset 180 du chapitre 3, que ceux qui gardent avec avarice ce que Allah leur donne par sa grâce ne comptent pas cela comme bon pour eux, au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est parfaitement connaissant, connaisseur de ce que vous faites.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
Le quatrième pilier de l'islam, les jeunes. C'est le fait de s'abstenir du plaisir sexuel et de la nourriture durant la période allant de l'aube et au coucher du soleil, et cela avec l'intention. En quoi se distingue le jeûne des autres piliers? Le jeûne se distingue par plusieurs points qui se trouvent dans la législation islamique. Un hadith dans lequel le prophète a dit
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسعر فإن سابه عهد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطرة وإذا لقي ربه فرح بصومه.
Tout travail du fils d'Adam m'appartient sauf le jeûne, car il m'appartient, et je récompense pour ça. Et le jeûne protège contre le feu et la mauvaise action. Si quelqu'un de vous jeûne un jour, qu'il ne calomnie pas, et qu'il ne fasse pas de mauvaises actions, si quelqu'un lui fait du mal, et qu'il cherche à l'attaquer, qu'il dise, moi je jeûne. Au nom de celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, l'odeur de la bouche de celui qui jeûne est meilleure auprès de Dieu que l'odeur du parfum le jour du jugement dernier. Celui qui jeûne se réjouit de deux choses. S'il rompt son jeûne, il s'en réjouit, et s'il rencontre son Seigneur, il se réjouira de son jeûne. Un autre hadith qui met l'accent sur la distinction du jeûne, rapporté par Sahl ibn Sa'ad, que le prophète Père et Salut se lui a dit.
An Sahl ibn Sa'ad, radiallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل فيه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
يا إنفط أفردي أقل الريان. Seuls ceux qui ont jeûné rentreront par cette porte le jour du jugement dernier. On dira, où sont ceux qui ont jeûné? ils se lèveront, personne d'autre que ne rentrera par cette porte. S'il rentre, on la ferme. Il y a un autre avis qui dit.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصدفت الشياطين.
Pendant le Ramadan, on ouvre les portes du paradis et on ferme les portes de l'enfer et Satan s'en approche. Voilà donc en quoi les jeunes se distinguent des autres piliers. Voyons maintenant le point de vue juridique sur le jeûne du Ramadan. Le jeûne du Ramadan est obligatoire et c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Et son caractère obligatoire a été dit dans le Coran, dans la tradition du prophète et confirmé par le consensus des savants musulmans. Il est dit dans le Coran chapitre 2 verset 183:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
Oh les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Dans le même chapitre, verset 185, il est dit:
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, le thème clair de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, c'est jeune. Et quiconque est malade ou en voyage, alors il chaîne un nombre égal d'autres jours. Quant à la tradition du prophète, quelqu'un lui a demandé de lui dire ce que Dieu lui a rendu obligatoire en ce qui concerne les
jeunes. أخبرني عما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان.
Le jeûne du mois de Ramadan. Enfin, tous les savants musulmans sont d'accord que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Alors, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour qui? C'est obligatoire pour un certain nombre de personnes qui sont les musulmans. Alors, ce n'est pas obligatoire pour le mécréant qui n'est pas entré dans l'islam, car il ne fait pas partie des adorateurs et son acte n'est pas valable. Car Dieu dit dans le Coran, chapitre 25, verset 23,
« وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا »
Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière et éparpillée. Le jeûne du Ramadan est obligatoire pour un majeur. Il n'est donc pas obligatoire pour le mineur, mais on peut lui apprendre à jeûner. C'est obligatoire pour un équilibré mental. Ce n'est donc pas obligatoire pour le fou, car le prophète Paix et Salut sur lui a dit:
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.
On n'écrit pas les péchés des trois personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, le mineur jusqu'à ce qu'il devienne majeur, le fou jusqu'à ce qu'il raisonne. Le jeûne est obligatoire pour celui qui peut jeûner. Quant à celui qui ne peut réellement pas jeûner, ou bien s'il jeûne, cela entraînera une indisposition que sa vieillesse ou sa maladie ne peut pas supporter, alors le jeûne ne lui est pas obligatoire, mais il doit nourrir quotidiennement une nécessité avec une quantité spécifique de nourriture s'il a les moyens. Au cas où il n'a pas les moyens, lorsqu'il aura les moyens, il le fait. Car Dieu a dit dans le chapitre 2, verset 184,
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec difficulté, il y a une compensation. Nourrir un pauvre. Quand un malade dont le jeûne peut aggraver la maladie, ils peuvent laisser le jeûne pour le rembourser après. Le jeûne de Ramadan est obligatoire pour celui qui n'est pas en voyage. Quant au voyageur, il peut rompre le jeûne pour le rembourser après, car Dieu a dit dans le chapitre 2, verset
185. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Quant à la femme enceinte et celle qui allait, si elle a peur que cela ne joue sur leur santé ou sur celle de leur enfant, la femme enceinte remboursera un nombre égal de jours. Mais quant à celle qui allait, elle nourrit un nécessité le nombre égal de jours et ensuite elle remboursera le nombre égal de jours après le Ramadan. Le jeûne de mois de Ramadan a deux piliers essentiels. Premièrement, s'abstenir de tout ce qui peut annuler le jeûne de l'aube au coucher du soleil. Ceci est précisé dans le Coran chapitre 2, verset
187. يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.
Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Les savants ont expliqué la distinction du fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, c'est l'apparition de la lueur de l'aube après le noirceur de la nuit. Cela est issu de l'explication du prophète qui dit que
le قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إنما ذلك طواد الليل وبياد النهار.
Ce n'est que la noirceur de la nuit et la lueur du jour. Le deuxième pilier du jeûne, c'est l'intention. Le doit venir du cœur. Dieu dit dans le Coran, chapitre 98, verset 5,
« وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ »
Il ne leur a été ordonné cependant que d'adorer Allah, nous voyant un culte exclusif. Et le prophète dans un hadith a dit,
« وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ » إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
Alors, le jeûneur prend l'intention bien avant la lueur de l'aube. Voici en résumé les choses qui annulent le jeûne. Introduire expressément quelque chose dans le ventre, que ce soit de la nourriture ou pas, celle qui la fumée. Ibn Abbas a dit.
عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج.
الجن رمي بارسكي في أن ومن بارسكي في الصوت. Ce qui fait الجن si on vomit par exprès, cela annule le jeûne. Le prophète a dit.
لقوله صلى الله عليه وسلم من ذراه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استطاع فليقضى.
Celui qui le vomissement surprend, cela n'annule pas le jeûne. Mais s'il le fait par exprès, pour en profiter, il doit rembourser le jeûne. Le rapport sexuel exprès dans la période de jeûne de la journée annule le jeûne. Il est dit dans un hadith qu'un homme est venu chez le prophète et lui a dit
أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حلفت؟ فقال: وما أحلفك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا.
Il a dit: je suis foutu. Le prophète a dit: qu'est-ce qui t'a foutu? Il a dit: j'ai fait des rapports avec ma femme en plein ramadan. Le prophète lui a dit: peux-tu libérer un esclave? Il a dit: non. Peux-tu jeûner 2 mois sur ceci? Il a dit: non. Peux-tu avoir quelque chose pour nourrir 60 nécessités? Il a dit: non. Le prophète lui a dit de s'asseoir. Puis le prophète lui a amené un panier plein de dattes et lui a dit: fais au monde avec ça. Parmi les choses qui annulent le jeûne, l'éjaculation par chute de masturbation, que ce soit par toi-même ou par ta femme. Les raisons qui font que l'éjaculation annule le jeûne, c'est parce qu'elle est le point recherché dans le rapport sexuel. Si le rapport sexuel même, sans éjaculation, annule le jeûne, alors n'en parlons pas de l'éjaculation elle-même. Le sang des règles et le sang de l'échi après l'accouchement annulent le jeûne, car la validité du jeûne de la femme est liée à leur disparition. Alors, si l'une des deux catégories de sang apparaît pendant le jeûne est donc annulé, car Aïcha a dit:
« لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نتحر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
Lorsqu'on était en menstruation chez le prophète, après l'écoulement, nous nous purifions et on nous ordonnait de rembourser le jeûne et non la prière. La folie annule le jeûne. Si quelqu'un devient fou, que Dieu nous en garde, alors qu'il est en jeûne, son jeûne est annulé, car le fou est déséquilibré mentalement, on ne lui demande pas de compte. Et cela ressort dans un hadith qui dit:
Al-Majnoun hatta yufiq.
Qui dit qu'on n'écrit pas le péché d'un fou jusqu'à ce qu'il soit équilibré. L'abjuration de l'islam, c'est-à-dire quitter l'islam par une pensée ou une parole ou une action, cela annule le jeûne. Car Dieu a dit dans le Coran chapitre 2 verset 217:
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
Et ceux parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Quelles sont les choses qui sont recommandées dans le jeûne? Ce sont le fait de rester rapidement le jeûne si le soleil est tombé, car le prophète a dit:
Le qawlihi sallallahu alayhi wa sallam. لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر السحور.
Ma communauté restera toujours intacte tant qu'elle rompt le jeûne rapidement et elle retarde le repas du matin. Le fait de retarder le suhoor, le repas du matin, est recommandé car le prophète a dit:
إن تأخير السحور من سنن المرسلين.
Retarder le suhoor est une tradition des envoyés de Dieu. La sagesse qui accompagne ce fait, c'est pour que le jeûneur ait plus de force pour adorer son Seigneur. Il est recommandé de laisser les mauvaises paroles, car ce sont des péchés. Le prophète a dit:
في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يبع طعامه وشرابه.
Celui qui ne laisse pas les mauvaises paroles et les mauvaises actions, Dieu n'a pas besoin qu'il s'abstienne de manger ou de boire. Enfin, le jeûne a des difficultés qui se situent sur le plan spirituel, social et sanitaire. Parmi les difficultés spirituelles du jeûne, il y a le fait qu'il initie à l'endurance et qu'il la fortifie. Il initie à la maîtrise de soi et la fortifie et il instaure dans l'âme un sentiment de piété, surtout que la piété est la cause principale de l'instauration du jeûne, comme il est dit dans le Coran chapitre 2, verset 183.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
Oh les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Parmi les difficultés sociales du jeûne, il y a le fait qu'il apprend à l'organisation, à la communauté, ainsi que l'union, l'amour de la justice et de l'égalité. Il y aura parmi les croyants un sentiment de miséricorde, de bon comportement, et la société sera débarrassée de dépravation et d'autres maux. Quant aux utilités sanitaires du jeûne, il y a le fait qu'il nettoie l'appareil digestif, facilite le jet des déchets, diminue l'excès de graisse dans le corps.
وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ.
Le pèlerinage, c'est le fait de se rendre à la maison sacrée de Dieu d'une manière spécifique, dans un moment spécifique, avec des conditions spécifiques déterminées par la législation islamique. Il y a des preuves qui justifient la légalité du pèlerinage. Ces preuves sont dans le Coran, la tradition du prophète, le consensus des savants musulmans. En ce qui concerne le Coran, il est dit dans le chapitre 3, verset 97.
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.
Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison, et qui tant ne croit pas, alors se passe largement des mondes. Quant à la tradition du prophète, le fils du mort a dit
An ibn Umar, radiallahu anhu, قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بني الإسلام على خمس وفيه حج البيت.
Le prophète nous a fait un serment. Il a dit que l'islam est fondé sur 5 piliers, parmi lesquels il y a le pèlerinage de la maison. Dans un autre hadith, Abu Huraira a dit
Wa an Abi Huraira, radiallahu anhu, قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا.
Le prophète nous a fait un serment. Il a dit « Oh vous les hommes, Dieu vous a rendu obligatoire de pèlerinage, faites le pèlerinage. » L'ensemble des savants musulmans sont d'accord que le hadj, pèlerinage, est obligatoire pour celui qui a les possibilités. Alors, pour qui le pèlerinage est donc obligatoire? C'est obligatoire pour le musulman. Quant au non-musulman, on ne lui demande pas de faire ni le pèlerinage, ni d'autres adorations, puisque la foi est une des conditions pour la validité et l'agrément de toute action. Le pèlerinage est obligatoire pour un équilibré mental et non pour le fou. Le pèlerinage est obligatoire pour le majeur et non pour le mineur, car le prophète a dit
le قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم.
On ne crie pas le péché de trois personnes. Le fou jusqu'à ce qu'il soit équilibré mentalement, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne majeur. Le pèlerinage est obligatoire pour celui qui a la possibilité. C'est ce qui est dit dans le verset 97 du chapitre 3. Il s'agit de la possibilité en provision et en monture. Il faut que le bien que tu utilises pour le pèlerinage soit lucide, car Dieu est bon et même ce du bon. Quant au pauvre qui n'a pas les moyens de se prendre en charge, et il n'a pas quelqu'un qui peut le prendre en charge durant le voyage, le pèlerinage ne lui est pas obligatoire. Il en est de même pour celui qui a les moyens et qui n'a pas de monture, et il n'est pas fort pour marcher. Ou bien il a une monture, mais la route est en insécurité, et qu'il a peur pour soi et pour ses biens, alors le pèlerinage ne lui est pas obligatoire. Par quoi le pèlerinage se distingue des autres piliers aussi? Beaucoup de textes expliquent la distinction du pèlerinage et encouragent à ce qu'on le fasse. Il se distingue aussi par le fait qu'il expie le péché. Parmi ces textes, il y a le hadith d'Abu Hurayra que le prophète paix et salut sur lui a dit.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
Deux umrah, un autre umrah, les péchés sont pardonnés. Un pèlerinage agréé n'a pas de récompense si ce n'est pas le paradis. Le pèlerinage a quatre piliers sans lesquels il n'est pas valable. Premièrement, l'état de sacralisation. C'est l'intention de faire le rite du pèlerinage, plus le fait de ne pas s'habiller avec un habit cousu, mais seulement se couvrir avec deux étoffes de tissu. Cela est valable pour l'homme, quant à la femme, elle peut s'habiller. En état de sacralisation, on fait le kalbia, c'est le fait de dire la béika. Deuxièmement, la circumambulation autour de la maison sacrée 7 fois. Troisièmement, la marche entre les deux collines Safa et Marwa. Quatrièmement, le stationnement sur Arafat. C'est donc obligatoire pour le musulman de chercher à savoir comment on fait ses adorations avant de s'y mettre pour qu'il le fasse entièrement et en conformité avec l'ordre de Dieu et de son prophète, paix et salut sur lui. Car Dieu a rendu obligatoire le savoir avant la parole et l'acte. Cela se voit dans le Coran lorsqu'il dit
فَعَلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ.
Sache qu'il n'y a de divinité sauf Allah et cherche à faire pardonner tes péchés et ceux des croyants. Il a dit aussi
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
Demandez aux gens de l'appel si vous ne savez pas. Voilà maintenant ce qui est interdit au pèlerin de faire lorsqu'il est en état de sacralisation. Il lui est interdit de couvrir la tête avec quoi que ce soit. Les femmes peuvent couvrir la tête. Il est interdit de raser ou de couper la chevelure ou les poils sur une ligne sortie. Il lui est interdit de tailler les ongles, que ce soit des doigts ou des orteils. Il lui est interdit de se parfumer. Il lui est interdit aux hommes de porter des habits cousus. il est interdit de chasser, comme il est dit dans le Coran.
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.
Oh, vous les croyants, ne faites pas la chasse en état de sacralisation. Il est interdit de faire des préliminaires du rapport sexuel, tels que les caresses et autres. Il est interdit de faire des rapports sexuels, comme il est dit dans le Coran, chapitre 2, verset 197.
Al-Hajj ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Il est interdit de célébrer un mariage ou de demander une femme en mariage. Quand on est en état de sacralisation, comme le prophète a dit,
قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المرء ولا ينكح ولا يختار.
Celui ou celle qui est en état de sacralisation ne se marie pas. Il ne célèbre pas un mariage, il ne demande pas une femme en mariage. Quel est le point de vue juridique sur les interdictions en état de sacralisation? Quand un pèlerin se couvre la tête, ou se rase, ou se taille les ongles, ou se parfume, ou porte un habit cousu, s'il fait même un parmi ces choses citées, il se rachète avec un jeûne de 3 jours, ou il nourrit 6 personnes nécessitées, pour chaque nécessité une quantité précise de céréales, ou un délai égorgé. Comme il est dit dans le chapitre 2, verset 196,
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête et qu'il doit se raser, qui se rachète alors par un jeûne, ou par un aumône, ou par un sacrifice. Mais s'il fait une de ces choses, et que c'est des actes cités par oubli ou par ignorance, il n'a aucun péché, et si il se rappelle, ou dès qu'il se rend compte de cette violation, il s'en accepte. Quant à la chasse, s'il l'a fait par esprit, il doit faire un sacrifice. Quand un pèlerin fait le préliminaire des rapports sexuels, il doit sacrifier un mouton. Quand il fait les rapports sexuels, son pèlerinage n'est pas accepté et il doit continuer le rite du pèlerinage jusqu'à la fin et il doit faire un sacrifice. S'il n'en trouve pas, il jeûne 10 jours et il doit refaire son pèlerinage l'année prochaine. L'imam Malik dans le Mouata a dit que Omar ibn Khattab et Abu Urayrata et Ali ibn Abu Talib ont été demandés à propos d'un homme qui a touché à sa femme alors qu'il était en état de sacralisation pour le pèlerinage. Ils ont dit que les deux doivent continuer le rite du Hajj jusqu'à la fin, puis ils doivent faire le pèlerinage l'année prochaine et ils doivent faire un sacrifice. Quant au mariage et ses préliminaires, ainsi que d'autres péchés, tels que la calomnie, le rapportage et tout ce qui est comme acte pervers, si un pèlerin fait ça, il doit se repentir et demander pardon à Dieu, car il n'y a pas dans la législation d'autres moyens d'expiation de ce sorte de péché autre que le repentir et la demande de pardon. Dieu a averti celui qui néglige le pèlerinage. Il dit dans le Coran, chapitre 3, verset
97.
Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et qu'on ne croit pas, Allah se fasse l'allégement du monde. Cela montre que le pèlerinage doit être fait rapidement par celui qui a les moyens. Le prophète a dit dans un hadith,
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم تهبط حاجة ظاهرة أو مرض حادث أو منع من سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا.
Celui qui n'est pas empêché par un besoin apparent ou par une maladie ou par un pouvoir tyran et il n'a pas fait de pèlerinage, s'il veut qu'il meure comme juif ou chrétien. Il y a un autre hadith ici.
قال علي رضي الله عنه من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
Celui qui détient une provision et une monture qui peut l'amener dans la maison sacrée d'Allah et il n'a pas fait de pèlerinage, il n'a qu'à mourir comme juif ou chrétien. Le calife Omar a dit,
وقال عمر رضي الله عنه لقد حلمت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمطار فينظروا كل من كانت له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين.
J'avais l'intention d'envoyer dans ces contrées des hommes qui cherchent toute personne ayant les moyens de faire le pèlerinage et il l'a pas fait et qu'ils le fassent payer une taxe. Ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. Le prophète paix et salut sur lui a dit
وقال صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له.
Précipitez-vous pour faire le pèlerinage obligatoire car personne ne sait ce qui peut lui arriver. Esclaves de Dieu, en résumé, l'islam est fondé sur ces cinq grands piliers dont vous venez d'écouter l'importance. Il y a parmi ces cinq piliers ce qui doit vous occuper permanemment et à chaque instant, c'est la profession de foi. Parmi eux, ce qui doit vous occuper cinq fois par jour, c'est les cinq piliers et cinq prières prescrites. Parmi eux, ce qui doit vous occuper chaque année, c'est le jeûne du mois de Ramadan et la zakat. Parmi eux, ce qui vous est demandé d'être fait une fois dans votre vie, c'est le pèlerinage à la Mecque. Si vous en faites plus, c'est une obligatoire. Louange à Dieu, celui-là qui vous a guidé vers l'islam. Alors, demandez-le à ce qu'il vous maintienne constamment jusqu'à la mort. Il dit dans le Coran, chapitre 3, verset 102, « Ô vous les croyants, craignez Dieu comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. »
Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrah ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-asyan wa ja'alna min al-rasidin. اللهم من أحييته منا فحيه إلى الإسلام ومن توفيته منا فتوفه إلى الإيمان وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.